Ça donne quoi le Bilal Hassani?
Bah ça donne bonsoir Paris. Yeah. Chaque nouvelle vidéo.
Salaud, vous m'excitez, il faut me satisfaire.
On a toujours l'impression qu'une bonne baisse, c'était quand les deux ont réussi à jouer.
Oui, mais ils jouissent pas forcément en même temps.
Qu'aimeriez-vous laisser ici comme souvenir?
I'll leave one drop of my pussy juice.
Eh bien, je vais laisser une goutte du jus de ma chatte.
Très bien.
Il se déshabilla.
Et bravo, je suis très ému. Vous m'avez scotché, vous m'avez cueilli. C'est vrai que c'est pas très joyeux quand même pour un trublion.
C'est moi, la culture pop, c'est moi. But I've been cheating through this life.
Ou dont ton gilet pare-balles à base de pop. Mais pour le hip-hop, je développe à 5 cm.
Mais le lui, tu me le feras après.
Si t'as pas les restes, ça se reconnaît. Il y a des mots de voir.
Hello, this is Bruce Springsteen.
Oui, je vois pas bien où vous êtes, monsieur.
You're listening to pop.
Ta gueule, et dis donc, t'as pas fini de la ramener avec ton interview exclusive de Mélo, là?
Non mais attendez, c'est un événement.
Ta gueule, le vrai boss, c'est Dick. Y'a pas de débat, ok?
Hé, je peux même envoyer de la poudre d'étoile.
Waouh!
Je suis tout seul dans ce monde merveilleux?
Non, mon chéri, tu n'es pas seul.
Oh, une fée!
Je suis Dominique Besnier,
voilà.
Petite fée du cinéma français.
Donc laisse-moi te chanter. Parler de
En même temps, je suis totalement shakespearien.
Tu m'as interrompu pour dire ça.
Oui. Okay.
Et aussi pour parler dire d'une vente flash moins 50% chez le
Bon, alors on y va. Il y eut un silence redoutable.
France Inter.
Vous tirez ou vous pointez?
En fait, I don't shoot anymore.
Ah non, je tire plus.
I just smoke.
Ça, c'est une réplique de mon fils.
C'est très bien. Intraduisible.
Mon fils dit tout le temps, ah, c'est un truc de bébé. C'est vachement bien, ça. Une fois d'âge en secret, c'est quand même... Évidemment, c'est un marque de bébé.
Pop, c'est parti.
Pop-opien et tous les autres aussi, bonjour. Elles ont été longues ces 8 semaines pour nous comme pour vous. Pour vous, parce que je sais bien à quel point Pop-op-op vous est devenu aussi indispensable que l'air qu'on respire ou que le petit rosé frais qu'on engloutit par cubis entier au cœur de l'été. Et pour nous, parce que notre métabolisme s'est habitué à ce que plein de gens, vous les Pop-opiens, nous écoutent chaque jour ouvrable entre 16h et 17h et que ça fait tout drôle pendant 2 mois de n'avoir plus personne d'autre à qui parler que des poissons, des vaches, des baigneurs, des épiciers, des cyclistes, des garagistes ou des enfants en bas âge, même si toutes ces catégories de la population sont bien entendu bienvenues le reste de l'année. Tout ça pour dire que nous sommes ravis de vous savoir fidèles au poste, comme disent les récidivistes, et nous allons tout faire cette saison encore pour que cette fidélité soit récompensée, non pas avec une de ces cartes du même nom qui servent de hameçon à la grande distribution pour mieux ferrer les innocents consommateurs, mais par les surprises que nous vous réserverons, je l'espère, au quotidien. Et comme on aime ici tout ce qui bouge, en particulier les images, nous allons commencer par parler d'images qui bougent avec l'excellent Nicolas Saada. Pop, saison 3, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Paul.
À mes côtés, celle qui vient tout juste d'arriver dans le studio, encore sainte de sa licorne gonflable géante d'instagrammeuse, Charline Roux. Bonjour, Charline.
Bonjour.
Je me suis toujours demandé ce que ça faisait comme son une licorne gonflable. Je peux?
Oui, bien sûr.
Oh, ça m'excite. Merci. Avec nous donc l'excellent Nicolas Saada, comme je le disais à l'instant, journaliste, scénariste, réalisateur, pour un premier numéro 100% cinéma chicha. Bonjour Nicolas Saada.
Bonjour.
Bienvenue dans ce studio tout neuf qui a été marouflé pendant l'été par Valérie Damido. Le résultat est à voir sur franceinter.fr. Avec vous, nous allons donc parler de cinéma et de questions à l'occasion de la parution aux éditions Carlotta de Questions de cinéma, votre livre d'entretien, entretien réalisé entre 89 et 2001, principalement pour les Cahiers du cinéma, la plus prestigieuse revue de cinéma avec bien sûr Ciné Zoom Zoom. Mais avant de questionner le questionneur Nicolas Saada, ici il existe une question. Et comme nous allons parler de cinéma avec un grand C, sachez que cette question est encore plus trash qu'une réplique du film Maîtresse très particulière.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Et cette question, c'est...
Pour vous, Nicolas Zahada, c'est quoi la pop culture ?
Alors, la pop culture, pendant longtemps, je me suis demandé effectivement ce que ça pouvait résumer, englober. Je dirais que c'est faire passer des idées un peu minoritaires dans une expression qui est majoritaire. Mmh. Voilà. De faire passer les choses les plus différentes, les plus étranges, les plus marginales dans l'expression la plus majoritaire possible.
Très bien. Vous savez que j'ai eu plein de réponses à cette question. J'ai eu des réponses saadesques, oui. Nicoleuses, novatellantes et même cinématiseuses. Et parmi mes préférées, il y avait celle de votre ami Wes Anderson. Ça vous intéresse de l'écouter ?
Ah bah oui.
Écoutons ça.
I think that good...
J'ai l'impression que l'art populaire, quand il est de qualité, et surtout dans le cinéma, moi je ne sais pas comment on le sépare, comment on dit qu'il y a une culture qui n'est pas pop et une culture qui soit pop, ça je ne vois pas. J'ai vraiment conscience qu'il y a plein de choses en art qui ne m'intéressent pas, et des choses que je trouve vraiment pas bonnes. Mais je ne fais pas vraiment de frontière entre ce qui est populaire, pop, et une autre culture plus élevée.
Alors Nicolas, frontière, pas super. Frontière ?
Moi, je crois, les frontières, j'y crois pas trop. Je pense que c'est intéressant, surtout chez les grands artistes, c'est comment ils abolissent les frontières. Mm-hmm. Donc finalement, le moins de frontières possible, c'est le mieux. Surtout pour la pop culture, j'imagine.
Très bien. Alors la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après le morceau qui a affolé les charts américains cet été, l'improbable télescopage du hip-hop et de la country music. C'est Lil Nas X et le titre c'est Old Town Road.
Yeah, I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing.
Sports car.
God knows stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no
more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't.
Old Town Road, c'est signé Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, et c'est extrait de l'album Seven. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Oui. Et nous sommes aujourd'hui avec...
On tente des variations ?
Nicolas Saada. Je ne sais jamais combien il y a d'A dans votre nom.
Il y a deux
nom,
A, hein,
Nicolas.
Ça suffit.
Saada,
bon. Oui.
Alors, pour être fixé sur votre nature profonde, nous allons écouter votre pop portrait. Votre pop portrait, c'est votre portrait, bien sûr, mais...
à base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Aujourd'hui, un invité capable de juger la qualité d'un film, d'une réalisatrice, d'une œuvre en plus de 280 caractères, sans avoir recours à des émoticônes de type pouce en l'air, smiley qui vomit ou sang écrit en rouge souligné deux fois. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Bref, pas le genre qu'on retrouvera cité sur les affiches de Hobbs & Shaw ou sous le tweet « Ah, ça déchire !» Alors, non du fait d'un quelconque snobisme qui pousserait notre invité à mépriser les œuvres avec gros cylindrés, testostérone et statin premier. Oui, je sais, c'est redondant. Notre invité a un goût pour tous les cinés. C'est juste qu'il en parle, le critique, l'interroge avec lettres, normal, hein, dans des cahiers. Et curiosité, la moindre des choses pour un journaliste, me direz-vous, ce à quoi je répondrai par un silence gêné. Une curiosité étendue à tous ceux qui font le ciné, écriture, image, musique, production, qui l'interrogent avec la même science, curiosité et un talent certain qui l'ont aussi amené derrière la caméra. Il est le réalisateur du remarquable Espion de Taj Mahal et tout récemment de la mini-série Thanksgiving. C'est aujourd'hui pour la publication de ces questions de cinéma que nous recevons Nicolas Saada. Et je vous le dis, patron, vu la qualité des entretiens, on n'a pas intérêt à se rater sur l'intelligence des questions.
Vous redoutez la qualité de nos questions, Nicolas ?
Pas du tout.
Vous avez tort.
C'est rassurant. Nicolas Saada, vous connaissez les goûts de tous les réalisateurs de la planète, mais quels sont vos goûts à vous ? Pour le savoir, on va passer à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur l'histoire de l'art d'Eli Ford, une série en 5 volumes parue entre 1909 et 1921 et qui brosse un panorama complet de l'art depuis l'époque des cavernes jusqu'au début du 20e siècle. Une histoire de l'art qui pourrait être une histoire de l'humanité, maîtresse Charline ?
Oui. Faut que je développe.
Bah oui, ouais. Peu, oui.
Un projet monumental constamment réactualisé est né des cours donnés à Paris à l'Université populaire par Eli Ford, historien de l'art passionné entre autres par Cézanne et Velázquez, et qui fut aussi médecin militaire durant la Première Guerre mondiale.
Bien, Nicolas, auriez-vous la gentillesse de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Allons-y. C'est mieux que les lunettes en général.
Bah oui, enfin, en ce qui me concerne.
L'art qui exprime la vie est mystérieux comme elle. Il échappe comme elle à toute formule. Mais le besoin de définir nous poursuit parce qu'il se mêle à toutes les heures de notre existence habituelle pour en magnifier les aspects par ses formes les plus élevées ou les déshonorer par ses formes les plus déchues. Quelle que soit notre répugnance à faire l'effort d'écouter et de regarder, il nous est impossible de ne pas entendre et de ne pas voir. Il nous est impossible de renoncer tout à fait à nous faire une opinion quelconque sur le monde des apparences dont l'art a précisément la mission de nous révéler le sens.
Bien. Alors Nicolas, à quoi êtes-vous le plus sensible ? À la démesure du projet, à la poésie d'Eli Ford, à cette lecture de l'histoire par le prisme de l'art ?
À tout ça en même temps. Oui. C'est-à-dire que c'est un projet fou. C'est difficile de choisir un livre culte. Hein.
Oui.
Mais là, ce que j'aimais, c'est effectivement la folie, la générosité du projet. C'est la philosophie, c'est l'histoire de l'art, c'est de l'histoire, c'est de la littérature, c'est presque de la prose poétique. La langue est magnifique. Et surtout, Eli Ford, il a une espèce d'utopie en lui qui est de dire l'art, c'est le bonheur commun des hommes, c'est le bien commun des hommes, et c'est ce qui peut un jour abolir les différences entre les hommes. Mmh. Donc, cette grande histoire du savoir, c'est pas une histoire de culture pour lui, c'est une histoire de ressenti.
Ouais.
Et comment les émotions que suscitent en nous les œuvres d'art sont finalement universelles et font de nous des hommes universels. Mmh. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui, vu ce qui se passe, c'est un grand beau message et je reviens toujours à Eli Ford. Ça me rassure de me dire que ces livres-là existent.
C'était une lecture déterminante pour celui qui se destinait ou qui a choisi un moment d'écrire à son tour sur l'art.
Alors ça a été une lecture décourageante parce que moi j'ai lu Eli Ford à un moment où j'étais en train d'écrire sur le cinéma et ça m'a un peu détourné l'envie d'écrire sur le cinéma. Je me dis qu'il n'avait pas encore le langage, la pensée, les outils capables de parler vraiment de cinéma. Mmh. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à faire plus d'entretiens qu'autre chose quand j'étais au Cahier du cinéma. Et Eli Ford, ça a été presque une réaction à l'envers sur l'envie d'écrire sur quoi que ce soit en fait. Mais en plus, ce qui est très beau dans l'histoire d'Eli Ford, c'est qu'il a commencé à s'intéresser au cinéma, à Chaplin, à faire le lien entre Tintoret, les premiers films muets, les frises antiques. Et c'est Chaplin qui a fait la préface de la première traduction anglaise d'Eli Ford.
Bien, voilà pour le livre. Il me faut un film maintenant, Nicolas Saada. Et là, vous avez choisi le film japonais Entre le ciel et l'enfer, Tengoku to Jigoku, en VO. Hein,
film... C'est bien, c'est exactement ça.
Je sais, c'est un film d'Akira Kurosawa, sorti en 1963. Charline, j'imagine que c'est un titre qui vous parle, puisque c'est ainsi que vous définissez votre travail ici à Pop Pop Pop.
Faux, j'en parle comme d'un mélange entre travail d'intérêt général et purgatoire. Le film, lui, s'intéresse à Kingo Gondo, l'actionnaire principal d'une usine de chaussures qui apprend que son fils a été enlevé. Les preneurs d'otages réclament une rançon. Gondo possède la somme qui devait servir à racheter les actions nécessaires pour devenir majoritaire. Mais coup de théâtre et dilemme, c'est en fait le fils de son chauffeur qui a été enlevé.
Bande annonce d'entre le ciel et l'enfer de d'Akira Kurosawa. Si je vous dis, Nicolas, que c'est un film noir-jaune, vous me répondez quoi ?
Je dirais oui, c'est un film noir tourné au Japon. Mm-hmm. Inspiré d'un roman d'Ed McBain. J'adore ce film parce que c'est à la fois un film de genre et une chronique sociale. Donc c'est l'histoire effectivement du dilemme de cet homme. Est-ce qu'il doit payer la rançon de quelqu'un qu'on a enlevé à la place de son fils ? Je ne vais pas vous divulguer le film, mais ça, il y a une enquête, une poursuite. C'est un film qui dure presque 3 heures, mm-hmm. et c'est un de mes films préférés. C'est un film absolument fascinant, et surtout c'est un film qui est à la fois une chronique sociale, un film politique, un vrai film noir. Et derrière ça, il y a l'humanisme de Kurosawa, mm-hmm. Le noir et blanc. Enfin, c'est vraiment un film sublime. Mm-hmm.
Et merci de n'en avoir pas divulgâché la fin. C'est la première fois que j'entends ce mot divulgâché dans ce studio.
Alors, c'est l'expression québécoise.
C'est pour spoiler, quoi.
Pour ne pas dire spoiler, ouais.
Divulgâché. Bien.
Martin, ça vous plaît pas ?
Si, j'aime bien. J'aime bien.
C'est
très
divulgâché.
C'est pas mal, ouais. Non, ça dit exactement ce que ça veut dire. Martin Scorsese, bien présent dans votre livre d'entretien, dit que, je le cite, Kurosawa est un prodige de la nature et que son œuvre constitue un véritable don au cinéma. Partagez tout à fait cet avis ?
Oui, parce que le cinéma de Kurosawa, c'est pas un... D'abord, on a toujours associé Kurosawa aux films de samouraï, mm-hmm. aux films historiques, mais il y a toute une partie de son travail qui est vraiment un cinéma contemporain. Ouais. Et les polars de Kurosawa, qui sont très inspirés du film noir américain, du néo-réalisme, mais aussi même du réalisme poétique français, sont aussi fascinants. Mm-hmm. Et c'est un cinéma qui est assez unique, parce qu'il y a à la fois l'action et l'émotion. Et dans Entre le ciel et l'enfer, à chaque fois qu'on est au bord de l'explosion comme ça, émotionnelle, d'un seul coup, le chagrin rentre dans le film quand mm-hmm. s'y attend le moins. Donc il y a un policier qui pleure parce qu'on retrouve un enfant perdu. Il y a une femme qui fait une overdose dans une rue alors qu'on est en pleine traque d'un criminel. Et c'est cette combinaison d'un cinéma très humaniste et d'un cinéma d'action pure que je trouve absolument fascinante chez Kurosawa.
Donc, j'ai le film Entre le ciel et l'enfer de Kurosawa, j'ai le livre, il me faut maintenant une série, Nicolas Saada, et là vous avez choisi l'agence de pub fictive new-yorkaise des années 60 avec Mad Men, la série créée par Matthew Weiner, diffusée entre 2007 et 2015. Charline, vous qui êtes folle de ces Mad Men, rafraîchissez notre mémoire, il fait très chaud aujourd'hui.
Oui, c'est l'histoire de garçons en costume qui prennent des décisions pendant que des filles en jupe trop serrée servent le café. Heureusement, c'était les années 60 et depuis ça a bien changé. Serré, sucré, Antoine ?
Sucré. Mmh. Vous êtes nostalgique de cette époque où l'on fumait et buvait en travaillant, Nicolas ?
Je peux pas l'être, puisque je n'ai pas connu. Mais non, je suis pas vraiment nostalgique de cette époque. Ce que j'aime dans Mad Men, c'est ce que j'aime aussi dans Les Sopranos. Le créateur de Mad Men, Matthew Weiner, c'est un protégé de David Chase qui a créé Les Sopranos. Et ce qui est intéressant avec Mad Men, c'est que d'abord, hein, c'est une série qui est absolument vraiment. Moi, c'est une des rares séries que j'ai comment on dit, bingé. À l'époque où on pouvait pas
sans la divulgâcher
exactement, mais il n'y a pas un mot français pour binger
voir de façon intense, consommer frénétiquement,
voilà, frénétiquement. Et surtout c'est intéressant de se dire que les deux des meilleurs showrunners américains, David Chase et Matthew Weiner, sont des cinéphiles. Ouais. Et que c'est de la très bonne télévision parce qu'elle est faite par des gens qui connaissent très très bien le cinéma. Et Matthew Weiner, il aime aussi bien Antonioni que Bergman. Il cite les bonnes femmes comme un des modèles de la série Mad Men. Mm-hmm. Et puis là, l'autre jour, il a fait une liste de ses films préférés pour un site américain. Il y a des films muets, il y a des films de Kurosawa, des films de Mizoguchi. Et donc, on a toujours tendance à séparer la télé du cinéma, à l'opposer. Et on s'aperçoit que les plus beaux objets de télévision. Ils sont nourris par des gens qui aiment le cinéma. David Chase, son rêve, c'était d'être metteur en scène. Et il était frustré de ça. Et il a toujours dit qu'un des modèles des Sopranos, c'était 8,5 de Fellini. Donc il y a cette influence du cinéma sur la télévision. Je trouve qu'elle est encore plus évidente dans Mad Men, parce que c'est plastiquement absolument incroyable. Et en plus, ça travaille sur des choses qui sont quand même très, très économes. C'est le même décor, c'est quelques costumes, c'est vraiment que de la direction artistique, mais vraiment dépouillé. Et c'est passionnant, et puis surtout des acteurs extraordinaires.
Bien. Pour que cette pop list soit complète, il me faut un peu de musique. Et pour la musique, eh bien, vous avez choisi comme chanson, Nicolas, celle-ci. Pop Life de Prince, sorti en 85 sur l'album Around the World in a Day. Pop Life, alors pour Pop, évidemment, je comprends, mais pourquoi cette chanson en particulier dans l'œuvre gigantesque de Prince?
Alors, disons que moi, je crois que j'ai appris l'anglais et un peu la musique avec les Beatles, et j'ai appris le reste avec la soul, la funk et Prince. Voilà, Prince m'a appris à danser, à draguer, à tout ce que vous voulez. C'est un musicien absolument génial.
Vous pouvez nous faire une petite démonstration?
Là, à l'instant, oui. Enfin, j'ai pas assez de place, mais...
il vous faut de la place.
Pour danser, oui. Pour danser.
Il faut beaucoup d'espace.
Pour danser, oui.
Vous avez une choré.
Pour faire une vraie choré. Et Prince, c'est un génie aussi, parce qu'il a justement mélangé la pop, la musique cubaine. Il avait toujours des orchestres avec des filles, des garçons, des cubains, des blacks, des blancs. Enfin, c'est quelqu'un dont le travail est immense. Et en plus, moi, je suis aussi inconsolable de sa mort il y a 3 ans. Et cet album, il est vraiment intéressant. C'est un peu son Sgt Pepper. Et quand on écoute Pop Life, on s'aperçoit que la basse, le slap de basse est complètement funky, en fait. Mais que la chanson est plutôt proche des Beatles et du pop. Et de la pop, pardon. Et donc, il y a ce mélange dans ce que fait Prince que je trouve incroyable. Et puis, Pop Life, voilà. Pop, c'est pas mal.
Bien. J'ai la réponse à toutes mes questions. Alors, je résume l'histoire de l'art d'Eli Ford, entre le ciel et l'enfer, Mad Men et Pop Life. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Il nous est impossible de renoncer tout à fait à nous faire une opinion quelconque sur le monde des apparences, dont l'art a précisément la mission de nous révéler le sens.
Voilà le jardin secret sonore de Nicolas Sarda.
Ça fait un sacré montage, hein. C'est du cut-up là.
Ça vous plaît? Vous vous y retrouvez?
Écoute, complètement. C'est vrai que la bande-annonce en japonais de Entre ciel et l'enfer n'est pas ce qu'il y a de plus radiogénique. Mais oui, je me retrouve complètement.
Radiogénique.
Oui, c'est comme photogénique, mais pour la radio.
D'accord, je prends aussi. Bon, Nicolas...
Ça fait plein de trucs, en fait.
Mais c'est trop de mots aujourd'hui pour moi. Ne bougez pas, Nicolas, on va continuer l'exploration de ce jardin secret juste après You Ain't the Problem. C'est le tout nouveau morceau de Michael Kiwanuka.
Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the lie. Love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself. No need to die. I'm only human. I'm done. You got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. You ain't the problem.
to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling, don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain, you ain't the problem.
Pop, pop, pop. Antoine de Gaulle.
Merci Marie-Pierre Planchon, mais c'est pop, 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 hein, pop, 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 pop. Et dans pop, 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 ben aujourd'hui nous recevons Nicolas Saada. Et dans votre besace, comme disent les milléniaux, Nicolas Saada, vous nous avez apporté une pépite pop pour les fans de cinéma. Il s'agit de Questions de cinéma, votre livre d'entretien édité chez Carlotta. Quand je dis pépite pop, je pèse mes mots car c'est un livre qui regroupe des entretiens avec des réalisateurs, des scénaristes, des compositeurs, des chefs-off, enfin bref, ceux qui font le cinéma entre 89 et le début des années 2000. Vous êtes vous-même cinéaste, qu'est-ce que ça change dans la manière de questionner ses pairs? Les questions que vous leur posiez, c'est aussi des questions que vous vous posiez vous-même?
Oui, en fait, je me les posais et je me disais, voilà, ça sera une école de cinéma de rencontrer tous ces cinéastes, ces scénaristes, ces producteurs, et de leur poser des questions assez précises, en essayant de pas les ennuyer, en essayant, moi, d'en tirer quelque chose d'un point de vue purement de plaisir pur, mais de personnel aussi. Et sans doute que j'avais, après chaque entretien, une espèce de mélancolie et une envie d'être cinéaste parmi les cinéastes, de plus être celui qui était de l'autre côté à poser les questions, mais d'être celui qui était de l'autre côté à faire les choses. Donc ça m'a amené à cette envie de faire des choses et ça m'a fait comprendre aussi comment et pourquoi on fait les choses. Et donc ça a été un enseignement d'une certaine manière, ces années de rencontres avec tous ces cinéastes, ces scénaristes, ces écrivains et ces musiciens aussi. Et j'avais envie que tous ces moments et ces entretiens soient réunis dans un même livre. Et c'est venu...
Et du coup, c'est un manuel parfait pour celui qui aime le cinéma au point de se dire qu'un jour, peut-être, il passera de l'autre côté.
Bah, moi, j'aimerais que ce soit un des manuels parfaits. Pour moi, le manuel parfait, ça reste le Hitchcock-Truffaut. Ouais. Je pense que c'est un livre absolument indépassable. C'est un livre qui vous fait à la fois comprendre le cinéma et d'une certaine manière aussi la façon de penser les choses. Parce que le cinéma, c'est pas simplement faire des images. C'est réfléchir à l'espace, à comment on construit les choses dans l'espace, à comment on parle à d'autres gens, à comment on travaille en équipe. Et donc, oui, c'est un de mes modèles, le cinéma selon Hitchcock. Et c'est vrai que ce livre, c'était pour moi important de le présenter pas du tout comme un livre d'analyse, comme un livre théorique. C'est vraiment un livre d'entretien.
Alors, question Twilight Zone. Est-ce qu'on vous a, par la suite, posé à vous des questions auxquelles vous avez soumis les réalisateurs que vous avez interrogés? Est-ce que ça a façonné aussi votre manière de répondre aux entretiens?
Bah, ça m'est arrivé de répondre à des questions qui se recoupaient avec celles que je pouvais poser. Donc, c'est toujours très étrange de se retrouver dans la position du questionné, de l'interviewé. Et ben, on essaie d'être le plus franc, honnête possible. Mais c'est vrai que j'aime parler de travail quand j'échange avec un journaliste. J'ai du mal à parler simplement théorie.
Et est-ce que les réponses à certaines interrogations que vous vous posiez en tant que cinéaste ont influé sur votre travail personnel?
Oui, sans doute. Y a des enseignements que j'ai tirés de ces entretiens sur la façon de préparer un film, sur la façon de réfléchir au découpage, sur la manière de pas perdre de temps quand on tourne, mais aussi des questions plus profondes sur le refus de faire des concessions, d'essayer d'avoir vraiment d'être fidèle à ce qu'on veut. Quand on a un désir de faire les choses, il faut écouter ce désir avant le reste. il faut pas commencer à faire de la politique ou des concessions, parce que là, on se perd. Mmh. Et c'est ce que j'ai vraiment retenu de tous ces échanges avec des gens pourtant très, très différents. Oui. Mais,
aussi
c'est
différents que Lynch ou Cameron.
Voilà, ou Cameron ou Joel Silver, ouais, qui est le producteur de Piège de Cristal, mais qui aime le cinéma. Mmh. Il aime tellement le cinéma qu'il se dit, si je fais un film à grand spectacle populaire, je veux qu'il épouse quand même l'idée que moi j'ai du cinéma, oui, et ce que j'ai ressenti quand j'ai aimé découvrir le cinéma. Mmh.
22 entretiens en tout, hein, dans ce Question de cinéma. Vous en avez mené bien davantage au fil des années. Sur quels critères est-ce que vous avez choisi ceux qui figurent dans le recueil? Est-ce que vous avez ici interrogé et choisi uniquement des artistes que vous admiriez, ou vous avez réussi à dépassionner complètement le...
J'ai privilégié d'abord effectivement ceux que j'admirais. Ensuite, les entretiens dont je gardais le meilleur souvenir, ceux qui me paraissaient les plus longs aussi, mmh, parce que je trouve que c'est important d'avoir des temps longs, des paroles longues de gens comme Scorsese ou Coppola ou James Cameron. Et j'ai aussi préservé les entretiens où j'étais plutôt seul avec l'interviewé, parce que quand on fait un entretien à plusieurs, il n'y a pas le même rythme, il n'y a pas la même dynamique. C'est tout aussi passionnant, mais c'est presque un autre exercice.
Ouais. Parmi ces 22 entretiens, un seul acteur, Terrence Stamp, au milieu des réalisateurs, compositeurs ou scénaristes. Pourquoi les acteurs vous semblent moins intéressants à interroger?
Ah non, ce truc, c'est, il n'y a pas plus difficile que d'interroger un acteur. Il n'y a pas plus difficile que de parler du jeu d'un acteur. Parce qu'en général, quand on entend parler des acteurs ou du jeu des acteurs, quand on lit un papier, on entend toujours, on lit toujours un tel extraordinaire, un tel magnifique de sobriété. De quoi on parle, mmh, en fait, quand on parle du travail d'un acteur? Donc, le travail d'un acteur, c'est un travail de présence et d'absence, un travail de concentration, un moment de laisser totalement prise. Et moi, ce qui m'a intéressé avec Terrence Stamp, c'est que il parle presque comme un réalisateur. Et il parle de son métier avec énormément d'invention, mmh, d'humilité. C'est un immense acteur qui a travaillé avec des maîtres, qui a travaillé avec Pasolini, mmh, avec Soderbergh, avec Fellini. Et donc, je trouvais que son discours s'intégrait bien dans celui des réalisateurs, voilà. Et j'avais envie qu'il y ait un acteur, en plus, qui vient du théâtre, qui vient d'une certaine, ouais, éducation, et qui s'aperçoit que être acteur au cinéma, c'est pas comme être acteur au théâtre.
Dans ces 22 entretiens, deux femmes, Diane Johnson, Thelma Schoonmaker, une scénariste, une monteuse. Les femmes vous semblent moins intéressantes à interroger?
Pas du tout. Y a beaucoup de femmes cinéastes que j'aurais pu interroger, mais j'étais déjà plus au cahier à l'époque. Ou de femmes techniciennes. Il y a beaucoup de techniciens féminins dans le cinéma français. Il y a beaucoup de chefs opérateurs. Agnès Godard, Caroline Champetier, qui participent du regard que donnent les cinéastes sur le monde. Sûr. Donc c'est vrai que ça m'aurait intéressé d'aller rencontrer. Mais Thelma Schoonmaker, c'est plus que le bras droit de Scorsese. C'est quelqu'un avec qui elle a un échange qui est privilégié. Mmh. Et ça c'est important d'avoir cette voix-là, parce que elle est claire aussi sur les angoisses de Scorsese, sur sa façon de travailler. Et elle dépassionne aussi, elle démystifie aussi ce qu'est le travail d'un cinéaste. Quant à Diane Johnson, pour moi, il y avait aussi l'envie de démystifier ce qu'est le travail à partir d'un mythe qui était, oui, celui de Kubrick. Donc c'était peu après la mort de Kubrick. Je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui avait travaillé avec lui. Et il se trouvait que j'avais un moyen de rencontrer Diane Johnson, romancière, qui avait coécrit Shining avec lui.
Et alors, un seul Français dans votre sélection, Claude Chabrol, au moment du tournage de Docteur M. Écoutez-le.
Alors écoutez, il s'est passé une chose amusante, c'est que le scénario était au départ légèrement d'anticipation. Alors on avait prévu que le mur était fortement lézardé, que les maires de Berlin-Ouest et Berlin-Est se rencontraient régulièrement, que les gens de l'Est pouvaient aller à l'Ouest, les gens de l'Ouest à l'Est, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment. Alors la seule différence entre le film que nous avons entrepris et le film qui va arriver, c'est que le film qu'on avait entrepris était un film un peu de science-fiction et le film qui va arriver est un film réaliste.
Ah oui, ça tombe carrément bien.
Oui, oui, c'est amusant.
Vous avez rejoint l'histoire?
Non, monsieur.
Ou c'est l'histoire qui vous a rejoint?
Oui, oui, absolument.
Ah, vous êtes modeste, très bien. C'est l'histoire, évidemment, qui a rejoint Claude Chabrol. Donc, un seul cinéaste, un cinéaste français. Les cinéastes français vous semblent moins intéressants à interroger?
Même réponse cachée, non. Là, c'est la tendresse pure qui a déterminé ce choix. Une tendresse pour la nouvelle vague et tout ce qu'elle incarne pour moi. Hein. C'est-à-dire une découverte du cinéma américain, une volonté de réfléchir sur le cinéma et après de cette réflexion, de faire du cinéma. Et Chabrol, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré, parce que de toute la bande de la nouvelle vague, c'est le seul qui s'est dit, bon allez, tant pis, je vais pas faire d'œuvre, je vais faire des films dans tous les sens, je vais accepter les commandes, et de temps en temps, je ferai des films personnels. Et puis, elle se souvient de cet entretien en particulier, puisque c'était novembre 89 à Berlin, c'était quelques jours après la chute du mur, Et l'atmosphère à Berlin était indescriptible. Mmh. Et il y avait Claude au milieu de...
Surréaliste, dis donc.
Oui, surréaliste. Ouais. Et Claude au milieu de cette espèce de demi-chaos faisait preuve d'un calme olympien. Il tournait dans les studios dans lesquels avait tourné Fritz Lang. Et ce qu'il raconte dans l'entretien et plein d'enseignements aussi sur son rapport au cinéma et à Fritz Lang.
Ouais, et à cette fascination.
Pour et vous le connaissez bien, oui. Parce que vous avez tourné avec lui.
Oh oui.
C'est le réalisateur français, mais pour un film international en l'occurrence. Entretien qui vaudra cette répartie, je cite: il y a deux sortes de comédiens, les Allemands et les autres. Est-ce que vous, en tant que réalisateur, vous avez pu éprouver cet adage depuis?
N'ayant pas travaillé d'acteur allemand, je vous dirai ça dans un an, deux. Voilà, j'irai vérifier.
Trois compositeurs en revanche, hein, parmi les 22 entretiens: Elmer Bernstein, Lalo Schifrin et Angelo Badalamenti. Si je vous fais écouter ça, dites-moi ce que ça vous inspire. Bullitt, c'est en 68 avec Steve McQueen, c'est un film de Peter Yates. Et Lalo Schifrin qui vous explique dans l'entretien à quel point la musique participe à l'illusion du cinéma.
Complètement, et c'est une musique dangereuse quand même, la musique de Bullitt. Ouais. Parce que même quand on ne connaît pas le film, elle donne vraiment le sentiment d'être très très cool. C'est-à-dire que c'est pas une musique à écouter au volant. Elle est vraiment incroyablement vaporeuse, climatique. Et la musique, oui, elle donne à l'image une qualité supplémentaire, elle donne une dimension supplémentaire à l'image. Et Lalo Schifrin, c'est un très bon compositeur de musique de film parce que c'est un fou de cinéma. Ouais. Il connaît bien le cinéma, il sait comment une image fonctionne avec une autre et comment lui peut se mettre entre les images et ajouter une autre dimension à ce qu'on regarde.
Où est-ce que vous retrouvez cette magie en termes de musique aujourd'hui, si toutefois vous arrivez à la retrouver?
Je crois qu'il y a beaucoup de compositeurs déments. Moi, j'adore Cliff Martinez. J'ai même travaillé avec lui sur Espion. Là, maintenant, il travaille beaucoup avec Nicolas Winding Refn, Soderbergh. J'adore le travail de Hans Zimmer sur les films de Christopher Nolan. Cette idée de mettre une musique électronique sur Dunkerque, c'est quasiment une idée de cinéma expérimental. Et ça marche. Et c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a toute une nouvelle école de compositeurs vraiment brillants, quoi.
Nicolas Sada, nous parlons de Questions de cinéma, votre recueil d'entretiens édité chez Carlotta. Faisons un petit break dans le rush de cet entretien pour passer au Pop News.
Après la fin des aventures stupéfiantes de Walter White, 4 ans après le début de la série dérivée consacrée aux origines de l'avocat au sens de la justice très ambivalent Saul Goodman, voici sous vos applaudissements El Camino, a Breaking Bad movie avec à la manœuvre l'insubmersible Vince Gilligan à l'origine de l'origine. Le film se déroule juste après les événements du dernier épisode de Breaking Bad et s'attache donc à la cavale de Jesse Pinkman. Et si on se fie à la bande-annonce, personne ne sait où il est, en tout cas c'est pas Skinny Pete qui va le balancer.
I don't know what to tell you. I ain't said like 500 times already. I have no idea where he is. Don't know where he's headed either. North, south, west, east, Mexico, the moon. I don't have a clue. But yo, even if I did, who wouldn't tell you?
Pour savoir où est Jesse Pinkman, est-ce qu'il fait de cette liberté chèrement acquise? Rendez-vous le 10 octobre sur Netflix.
Même registre, mais art différent, il est question d'un trésor de la country, en l'occurrence lui.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side.
Willie Nelson, acteur, producteur, chanteur, guitariste et prosélyte notoire en ce qui concerne la Marie-Jeanne et ses dérivés, a décidé de lancer une gamme de produits pour les animaux à base de CBD, la molécule de chanvre non psychoactive, à Skip Hemp for your furry family, soit du chanvre pour vos amis à poil, l'idée étant de pouvoir partager avec son chien, son chat ou sa chatte, selon vos préférences, je cite, un moment de détente familiale. Je teste et je vous dis.
Poésie et pop culture sur Twitter et dénonce aussi sous la plume numérique du dénommé Jean-Luc Premier Degré qui s'est lancé dans un thread, une suite de tweets reliés les uns aux autres pour les non-initiés, dans lequel il dénonce les contre-vérités assénées dans les chansons de préférence française et j'avoue, j'ai ri, morceau choisi. J'aimerais quand même te dire, tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé dans l'encre de tes yeux. Alors, soit Francis Cabrel est un dangereux psychopathe, soit il mitonne et a utilisé un bic comme tout le monde. Didier Van Passe l'assure, si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances au moins jusqu'au Congo. S'il avait le portefeuille de Manu Chao, j'espère qu'il lui rendrait, car c'est une vraie galère de refaire sa carte de piscine. Ou encore, en 2016, Vianney interprète « Je m'en vais », il est toujours là. À dérouler sur le compte de Jean-Luc Premier Degré.
France Inter. Popopo. Antoine de Caunes.
Oui, c'est moi.
Il a l'air sain, ce chat. Ça va.
Le chat l'instant. De Willy Nelson.
Il n'a pas encore testé le CBD.
Merci, Charline. Nicolas Saad, ne bougez pas. On va parler de cinéma dans la suite de Popopop. Mais avant, on écoute un artiste qui sent le pento, la ferraille, la mob, la goldo, le cuir et le baston de ses Johnny Montreuil. Chiner la ferraille.
Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Ma gueule, elle te fait peur, toute fripée, mon accent qui vient d'ailleurs. Tes mains, on se fait chasser de partout. Enfin, chez moi, c'est plutôt des flaques de boue tous les jours. Raté pour un bifton tous les jours. Raté pour la maison, raté de la lune pour des mouchoirs. Pour tous mes gosses et sans paplard, mes bifton et ce qui reste de mes talbins. Cherche pas à la carte, ça vient de tes poubelles, mon copain. Ici, on a du goût, on a du cœur. Bah ouais, ma gueule, sur mon honneur, je suis ferrailleur. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Pour la convertir en dollars dans mon beau camion. Ouais, c'est comme ça, c'est mon affaire. Des vis d'étrangle, des cuisinières, des machines à laver, des cafetières, le dentier de ta grand-mère, la Rolex de ton père. Je deviens fou, je vois tout faire partout. Je deviens fou, enfer et contre vous. Je deviens fou, toujours chiner les mêmes escrocs fous. Pour trois louves et pompes de raccro, à vous messieurs dames, des prix de liberté. Matez-moi mieux que ça quand vous me voyez arriver. Allez, je m'en charge, j'ai ma tire à réparer. En rêve en haut de moi qu'un jour j'aurai beau lever. La ferraille dans mon beau camion. Je m'en vais chiner la ferraille dans mon beau camion. Oh. Pour la convertir en dollars.
Seul et unique Johnny Montreuil, chiner la ferraille, cet extrait de l'album Narvalos Forever. Vous écoutez Popopop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Saada. Nicolas Saada, encore plein de choses à vous demander. Par exemple, l'autre leçon que ces entretiens de cinéma, les questions de cinéma que vous publiez, donnent furieusement envie de voir et de revoir tous ces films d'un autre temps. Oui. Voilà. On a envie de s'y replonger tout de suite. Et comme dit si bien Peter Bogdanovich, cité par Scorsese dans son entretien, l'expression vieux film ne veut rien dire. Il y a des films qu'on a vus et ceux qu'on n'a pas vus. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que la cinéphilie a changé de visage depuis 20 ans?
Elle est devenue, ouais, elle a beaucoup changé. J'ai l'impression que chacun est un peu sur ses petits objets. Mmh. Il y a ceux qui sont à fond sur les films de kung-fu, oui. Ceux qui sont à fond sur les giallo italiens. Les giallo, c'est des films un peu des thrillers érotiques avec des meurtres. Ceux qui sont à fond. Donc il y a plus de savoir un peu large du cinéma ou d'amour du cinéma. Il y a beaucoup de gens qui sont sur leurs objets.
Enfermés dans leur champ.
Voilà. Donc ça a à voir, je pense, avec quelque chose qui a trait à la pop culture, le geek. Quoi. Ouais. Donc il y a de la cinéphilie de plus en plus geek, de plus en plus spécialisée. Alors que ce qui est intéressant dans le cinéma, c'est le mélange. C'est de se dire qu'est-ce que je peux attraper chez Bresson et comment je peux le coller à quelque chose que j'aime dans Piège de Cristal et en quoi c'est intéressant de le raccrocher à une image que j'ai vue dans un film de Godard. Et là, d'un seul coup, ça produit quelque chose d'encore différent et ça devient vraiment excitant de voir des films d'époque, de pays, de metteurs en scène différents.
La cinéphilie a changé de visage, le ciné a changé de support, les réalisateurs s'y sont adaptés, en témoignent les Roma d'Alfonso Cuarón ou encore bientôt ceci.
Well, you know, there's a situation going on now, Frank. Big business and the government, they're trying to pull us down. Would you like to be a part of this history?
Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available.
La vie de Frank, The Irishman, Sheeran, soupçonné d'avoir fait disparaître le dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa en 75, au casting De Niro, Pacino, Keitel, Pecci, le tout réalisé par Scorsese, bientôt et uniquement sur Netflix. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, j'étais très étonné d'apprendre que c'est uniquement sur Netflix. Je pensais qu'il y aurait une sortie salle, même limitée aux États-Unis. Ce que j'en pense, si Scorsese n'a pas pu faire ce film ailleurs qu'à Netflix et qu'il voulait le faire... quoi qu'il arrive, il a eu raison de le faire pour Netflix. Moi, je réfléchis vraiment d'un point de vue un peu égocentrique et personnel. C'est-à-dire que si on a un désir absolu de cinéma et qu'il y a un endroit où on peut en faire, il faut le faire.
Vous avez aussi été un homme de radio, Nicolas Saada. On se souvient de votre émission sur Nova. Nova fait son cinéma, où il était beaucoup question de musique de film. Quel plaisir vous apportait la radio, le son donc, différent de celui que vous apportait l'image? C'est une question bien entendu très intéressée.
La radio, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un médium qui est à mi-chemin entre le commentaire et la création. C'est-à-dire qu'on parle de choses, mais en même temps, on peut être très créatif. Et d'autant plus que quand je faisais cette émission, qui était une émission musicale, je me disais, il faut construire une relation avec l'auditeur pour qu'il ne s'ennuie pas. Et donc, s'il ne s'ennuie pas au début, je peux peut-être lui faire écouter des choses plus difficiles au milieu de l'émission. Mais s'il écoute les choses difficiles, il faut que je sois quand même sympathique avec lui, que j'y remette un morceau sympathique juste après. Et du coup, ça m'a appris à construire une relation avec quelqu'un que je ne connais pas, en jouant sur mes goûts et sur ce qu'il attend aussi d'une forme qui est une forme radiophonique. Et je pense que ça m'a beaucoup appris sur la façon de faire des films aussi. C'est-à-dire que moi j'aimerais faire un cinéma personnel et en étant ouvert le plus possible vers le public. Donc j'essaie de jouer aussi sur cette espèce de jaugeage. On dit jaugeage, vous pensez?
Oui, jaugeage.
C'est possible, ça marche. C'est dans le dictionnaire.
Oui, ça marche.
Entre ce qui m'intéresse et ce que le public attend d'une fiction. Voilà.
Semi-fiction, on vous commande aujourd'hui un volume 2 de ces questions de cinéma pour une période allant de 2001 à aujourd'hui. Qui interrogez-vous en priorité? Et puis est-ce qu'éventuellement vous réfléchissez à élargir au showrunner de série?
Bah oui. Qui interroger en priorité? Plus de metteurs en scène, plus de réalisateurs de documentaires, par exemple. Des metteurs en scène contemporains comme Wes Anderson, Paul Thomas Anderson. David Fincher. Oui, j'ouvrirai le plus possible, évidemment.
La promo d'un film, c'est le point de départ pour un échange, selon vous, et c'est à celui qui pose les questions d'intéresser l'autre. Et plus on sort du cadre de la promo, plus on est sûr d'intéresser son interlocuteur, dites-vous dans l'introduction du livre. Justement, que pensez-vous d'Emily Ratajkowski, qui a décidé de se laisser pousser les poils sous les bras cet été?
C'est une très bonne question. J'ai pas vraiment d'opinion, mais je vais réfléchir à cette question de façon poussée.
Alors,
si je puis dire.
On l'a dit et répété, votre curiosité en matière de ciné est grande. Y a-t-il un genre de cinéma auquel vous êtes complètement hermétique en tant que spectateur et dans lequel vous ne vous lanceriez pas en tant que réalisateur?
Pas spécialement. Il y a une période du cinéma à laquelle je suis un tout petit peu, ça va faire sursauter Antoine, mais moi j'ai énormément de mal avec les films les films un peu macho français à dialogue genre, je dirais Michel Audiard et d'autres, parce qu'il n'y a pas eu que Michel Audiard. Mais ce cinéma français là des années 60, j'ai énormément de mal avec, parce que je trouve très misogyne, très rouleur de mécanique et formellement pas passionnant du tout, quoi. Mais je sais que c'est pas très politiquement correct de dire ça.
Pas du tout, pas du tout. Mais c'est, ça reste drôle.
Ça reste drôle, parfois.
Oui. Ah, pas toujours.
J'aime beaucoup cette nuance.
Mettez tout le monde dans le sac, là, Audiard.
Non, je ne mets pas tout le monde dans le sac. Non, non, pas du tout. Gabin, c'est un acteur immense. Ouais, je l'ai adoré dans les films de Renoir, dans certains films de Carnet. Ouais. Mais il y a un moment donné où quand Gabin fait du Gabin, fait du Gabin, voilà, j'ai un peu de mal. Mais ce n'est pas un genre de cinéma, c'est plutôt une période. Non, moi, tous les gens m'intéressent. J'adorais faire un film fantastique, un film d'horreur, voilà. Ça, c'est ma grande, grande envie.
Très bien. Nicolas, impossible de ne pas demander à l'expert du cinéma américain que vous êtes son verdict sur le dernier Tarantino.
Ah bah je ne vais pas parler en tant qu'expert, je parle en tant que spectateur. J'ai trouvé les acteurs absolument magnifiques. Le film très étrange, parce qu'il prend le parti, sans divulgâcher, je reprends le verbe qu'on a évoqué au début. Il prend le parti de réécrire l'histoire, de se dire que finalement, ce qu'il avait déjà fait. Donc, en fait, on parle beaucoup, vous savez, des Marvel Universe, ces espèces de mondes privés, privatifs, où une fiction se déroule et elle est absolument coupée, en fait, de notre réalité. Et c'est vrai qu'en haut, un film Marvel, on peut vraiment se demander qu'est-ce que fait Superman, puisqu'il n'est pas là. Et de la même façon, en fait, Tarantino, il a créé son Tarantino Universe. C'est-à-dire que les films se passent dans son univers mental. Il réécrit l'histoire et on pourrait dire qu'en fait voilà Once Upon a Time in America, enfin in Hollywood plutôt, ça c'est le film de Léon, c'est un film qui se passe en 69, 25 ans après l'assassinat d'Hitler dans Inglourious Basterds. Exactement. Voilà. Et donc soit on accepte ce parti pris, c'est-à-dire que en fait Tarantino veut rêver le monde avec ses films, soit on le réfute totalement. Mais c'est une vraie proposition de cinéma. Et comme je disais, moi j'ai adoré les acteurs, et Brad Pitt en particulier.
On est d'accord. Nicolas Sada, nous approchons de la fin de cette émission. Il est l'heure pour moi de descendre à la cave. Et j'y vais de ce pas.
À tout de suite.
Où elle est ma trappe? Ah non, mais je rêve, avec la nouvelle moquette du studio, ils ont recouvert ma trappe. Attends, je vais arracher ça vite fait. Mais je suis pas fou, elle était bien là, non? Ah, c'était peut-être un peu plus loin là. Attends. Et ici? Mais il n'y a rien.
Non mais Antoine, vous êtes en train de complètement pourrir la moquette.
Bon, je verrai ça demain. Mais c'est pas grave, je sais ce que je vais jouer, tiens. Je vais jouer Treater Wright de Roy Head. C'est la BO du dernier Tarantino, justement. Où elle est ma trappe? I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Treat Her Right, Roy Head dans Pop 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 sur France Inter. C'est extrait de la BO du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, c'est ici que s'achève ce premier épisode de Pop 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 pour la saison 3. Merci Nicolas Sarda.
Merci Antoine.
Et puisque vous êtes venu nous parler d'entretien, je me permets de vous offrir un autre livre d'entretien qui vient tout juste de sortir. C'est la rencontre entre un scénariste et un dessinateur, entre Pierre Ajmé et Chaval, et un dessinateur absolument génial, l'idole de Sampé. Il est notamment en question de cinéma et ça devrait vous plaire, c'est publié aux éditions Alia. Voilà, ah, c'est pour vous ça. Nicolas Saada, je rappelle que Question de cinéma, c'est publié par les éditions Carlotta et c'est plus que recommandé par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Charles Leca, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre nouveau stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, l'auteur Myriam Leroy, le chanteur Dylan Leblanc qui sera en live sur la scène de Pop Pop Pop. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos moquettes sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets comme disent les millennials. 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter.